Bonjour et bienvenue dans notre chronique juridique hebdomadaire « De quel droit ?». Chaque semaine, nous décortiquons une thématique, une notion ou une problématique juridique afin de vous informer sur vos droits et vos moyens d'action. Alors aujourd'hui, de quel droit allons-nous parler ? Eh bien, du droit des grands-parents sur leurs petits-enfants. Alors tout d'abord, les grands-parents ont-ils des droits ? Et au-delà des obligations que parfois les parents leur imposent, à savoir les garder, aller les chercher et tout, quels sont ces droits ? Et comment les faire valoir ? Voici les questions auxquelles je vais répondre toujours en compagnie de Jennifer.
Bonjour maître Céline Hendo. Oui, c'est vrai, aujourd'hui un thème que vous m'avez surpris quand vous m'avez dit le droit des grands-parents, parce que ça paraît logique hein, qu'ils aient des droits, puisqu'on les sollicite tellement pour garder nos enfants, aller les chercher à l'école, les emmener parfois chez le docteur. Et vous m'avez dit, mais non, il y a quand même des choses qui peuvent se passer, surtout eh bien, s'il y a un conflit, des divorces, etc. Donc nous allons décortiquer tout ça grâce à vous, maître, et à vos grandes compétences. Alors maître, vous disiez déjà, dans la première question, toute simple et bête peut-être, mais ont-ils des droits ces grands-parents sur les petits-enfants ?
Eh bien, effectivement, ils ont des droits et ce ne sont pas que des droits informels qui relèvent de l'usage. Le Code civil consacre leurs droits dans l'article 371.4 du Code civil qui dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Donc les ascendants, ce sont les parents, mais ce sont aussi les grands-parents. Alors, vous remarquerez la formulation du texte, à savoir qu'on parle de l'enfant qui a le droit, et non pas des grands-parents.
Ça voudrait dire que ça soit les petits-enfants qui solliciteraient cette requête ou pas ?
Comment ça ? Alors, à peu près, ça veut dire que c'est l'intérêt de l'enfant qui prévaut. C'est-à-dire que si c'est de l'intérêt de l'enfant que de développer les relations avec le grand-parent, effectivement, les grands-parents pourront faire valoir leurs droits. Si par contre, ça n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, on va y venir, hein, y a des cas où parfois la relation avec le grand-parent peut être toxique ou nocive ou perturber l'équilibre d'un enfant, alors dans ce cas-là, les revendications des grands-parents peuvent ne pas trouver écho auprès de juges aux affaires familiales si celui-ci devait statuer. Donc en gros, pour introduire le sujet, il faut avoir à l'esprit que, en matière familiale, lorsque l'on doit statuer sur les relations entre un enfant et ses ascendants, c'est donc l'intérêt de celui-ci qui va prévaloir. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, d'un point de vue contextuel, déjà, quand peut se présenter cette notion de droit, un grand-parent qui estime qu'il est lésé dans sa relation avec son petit-enfant. Donc ça peut se présenter en cas de séparation des parents. Si l'enfant est gardé exclusivement par mon beau-fils et que mon beau-fils ne veut pas me le remettre parce que je lui rappelle trop son ex-femme. Bon, eh bien, dans ce cas-là, l'enfant est pris de relations avec ses grands-parents de façon indue, injustifiée, et on estime que ça peut nuire à sa propre construction parce que les grands-parents n'ont pas qu'une seule fonction, à savoir dépanner. ils participent à l'éducation des petits-enfants et ils leur apportent des valeurs, une culture, une histoire qui vont leur permettre de se développer, de grandir et d'avoir un équilibre. Parfois, quand ça va pas bien chez papa et maman, eh bien, on trouve volontiers refuge chez le grand-parent.
C'est exact.
Donc, il ne faut pas que ce lien-là, qui est utile et essentiel à la construction d'un enfant,
soit rompu
oui. Sans que celui-ci n'ait eu son mot à dire, parce que l'enfant peut être aussi auditionné pour savoir ce qu'il en pense, ou sans que celui-ci n'ait ce... ne puisse effectivement donc faire valoir cet intérêt qu'il a à développer une relation avec ses grands-parents. Alors, la question qui peut se poser, c'est de quel enfant on parle ? Est-ce que il faut absolument que l'on parle de du petit enfant qui est né de mariage, voilà, avec une ascendance classique avec ses grands-parents ? Donc, ça concerne autant l'enfant qui est né hors mariage. Donc, à savoir que, prenons un exemple concret, deux grands-parents ont eu un fils qui est marié avec une femme. Mais il a eu une relation adultérine avec une autre personne. De cette relation adultérine est né un enfant, d'accord ? Eh bien, les grands-parents ont autant de droits sur l'enfant qui sera né pendant le mariage, dans le cadre du mariage, que sur l'enfant qui sera né de façon naturelle en mariage, et que ce soit dans le cadre d'une relation adultérine ou autre.
Peu importe.
Voilà, l'enfant
les droits
naturel.
Sont les mêmes.
Exactement. Et ça concerne aussi l'enfant qui est adopté par les parents.
Bien
et bien
sûr.
Voilà. Bon. Donc, pas de distinction sur les enfants. Donc, une fois que l'enfant a été déterminé, on sait de qui on parle, de quel droit on parle.
Eh oui, c'est voilà. Le thème de l'émission. Et c'est son titre en plus.
Tout à fait. Alors, autant y apporter des réponses.
Tout à fait.
Donc, de quel droit parle-t-on ? Eh bien, ils peuvent être divers et variés en fonction des circonstances. Les parents peuvent avoir des droits de visite et d'hébergement, comme un parent classique. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander à avoir leurs petits-enfants pendant les vacances, ou les voir un week-end par mois, chez eux ou en dehors, peu importe. Donc ça peut être un droit de visite et d'hébergement. Ça peut être un droit de correspondance aussi, pour pouvoir communiquer avec l'enfant.
Oui,
l'appeler.
Surtout qu'aujourd'hui, les moyens sont beaucoup plus multiples.
Tout à fait.
On a les visios, on a les réseaux sociaux, plein de choses comme ça qui permettent.
Exactement. Donc en cas de distance géographique entre les grands-parents et les petits-enfants,
oui,
on a la possibilité effectivement de demander à être mis en relation avec le petit-enfant pour son anniversaire, de temps en temps pour...
J'ai vu ça, hein. Même dans des cas de divorce, quand les parents sont éloignés, parfois le juge des affaires familiales met un droit sur une horaire, un jour précis où, à telle heure, l'enfant doit parler avec un des parents par visio.
Oui, voilà.
Et c'est obligatoire.
Et
on
oui.
doit respecter la décision.
On doit. Après, en pratique, cela relève beaucoup de la bonne volonté de la personne qui a l'enfant, hein, parce que souvent on va nous dire ça capte pas, mauvaise connexion, ou alors l'entraînement de foot a duré plus longtemps. Moi, j'ai eu des cas comme ça où c'est très compliqué, parce que comment faire exécuter ce type de décision ?
Et prouver que la personne est de mauvaise foi.
En plus, bon, au bout de 15 fois où la fibre ne marche pas, on peut se dire qu'il y a un petit souci.
Peut-être qu'elle habite dans les Hautes-Alpes, qu'il y a les moutons et tout, et pas de fibre.
Peut-être, mais bon, ça
oui,
voilà.
On va voir.
J'arrive quand même à communiquer avec des personnes qui sont dans les Hautes-Alpes, jusqu'à preuve du contraire. Mais bon, voilà, oui. Alors, à partir d'un moment, mauvaise foi, on retourne devant le juge. Bon, ce qu'il faut dans ce cas-là, on en a parlé hein, lors d'une émission précédente, c'est pourquoi pas faire un travail de médiation aussi à
bien
ce niveau-là
sûr,
quand
arriver,
on voit que... Voilà.
Bien sûr.
Mais ça peut être une obligation imposée par le juge. Au-delà de ces droits qui concernent un droit de visite, de correspondance et qui sont plutôt ponctuels, les grands-parents ont aussi le droit de solliciter la garde de l'enfant.
Alors là, vous me laissez bouche bée.
Eh oui, mais
ça
arrive. Pourquoi ? Eh bien, notamment quand les parents sont incapables de gérer l'éducation de leur enfant pour de multiples raisons. Hein. Ça peut être un cas où un parent est en prison, puis l'autre n'est pas apte ou n'a jamais eu la garde ou ne souhaite pas garder l'enfant.
Il faudrait vraiment
décédé.
Des cas extrêmes. Alors,
ah oui,
mettre,
c'est des cas extrêmes.
Là, on parle des cas extrêmes.
Alors, il y a
non, mais je préfère le dire quand même parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on pense qu'on ait des droits, que l'enfant est bien parmi ses parents, que tout est stable,
oui,
que tout va bien et que d'un coup, une procédure lancée par des grands-parents serait tentée.
Tout
et
à
de
fait.
Dire que ça serait possible. Là, non, c'est vraiment des cas... où en fait, le bien-être de l'enfant est bafoué, quoi, en fait.
Exactement.
C'est ça.
Alors, c'est des cas... Alors, je ne les qualifierais pas d'extrêmes, parce qu'ils sont quand même plus courants que ceux que l'on peut penser.
Non,
c'est des cas
extrême,
exceptionnels,
ouais.
Effectivement.
Oui,
pas
malheureusement.
Tout.
Moi, je le dis extrême, parce que ça paraît extrême d'en arriver là. Mais malheureusement, oui, comme vous dites, ils sont
ça peut arriver.
Souvent courants.
Ça peut arriver parce que les circonstances vraiment sont multiples. Ça peut être le cas d'un parent, famille monoparentale. Donc déjà, il n'y a qu'un parent. Ça, c'est quand même assez répandu. La personne est empêchée pour de multiples raisons. Bon, emprisonnement, c'est vrai, ça n'arrive pas tous les jours. Une maladie,
bien sûr.
Maladie, donc une hospitalisation, une expatriation à l'étranger, mais on peut pas amener l'enfant, ou des missions. Hein, il y a des professions où il faut partir pendant 6 mois en opération extérieure, enfin bon, ou autre. Hein, que faire de l'enfant pour le maintenir dans un équilibre et une stabilité? Eh bien là, les grands-parents peuvent, de concert avec les parents, hein, demander. Alors, on avait évoqué la délégation d'autorité parentale à un moment, mais ça peut être autre chose.
C'était temporaire, parce qu'il y avait une situation qui était temporaire, elle aussi.
Exactement. Il peut y avoir aussi le cas où les parents sont défaillants, c'est-à-dire qu'ils sont en incapacité. Et encore une fois, ça, ce sont des circonstances, des faits qui arrivent assez... qui sont répandus, hein, des familles à problème, c'est péjoratif, mais des familles confrontées à des difficultés, ben il y en a.
Oui, parfois il y a des burn-out chez des parents et qui sont incapables de gérer justement les enfants.
On peut avoir des parents qui sont confrontés à des problèmes d'alcool,
des dépendances,
d'addiction, effectivement. Et dans ce cas-là, la santé, la sécurité de l'enfant est en péril. Alors dans ce cas-là, c'est un autre juge qui peut intervenir, pas forcément le juge aux affaires familiales, ça peut être le juge pour enfants, donc qui lui est garant simplement de l'intérêt de l'enfant et pas forcément des relations entre les parents. Hein, c'est le distinguo entre le juge aux affaires familiales et le juge pour enfants. Il y en a un qui s'occupe des relations du couple parental et l'autre s'occupe de l'intérêt exclusif de l'enfant, le préserver. Mais simplement, la notion d'intérêt de l'enfant, de toute façon, prévaut pour les deux magistrats, dans la pratique des deux magistrats. Donc le juge pour enfants peut être appelé à intervenir dans une situation où les parents sont en incapacité de gérer leurs enfants. Et dans ce cas-là, on a plusieurs possibilités. Bien sûr, on va lui apporter tout un tas de soutien. Des éducateurs seront désignés pour qu'il y ait un suivi. Bon. Et il y a la possibilité donc de suivre cette personne, l'enfant en milieu ouvert ou en milieu fermé, c'est-à-dire le placer. Et ça, le placement, on sait que c'est quand même la décision à prendre vraiment ultime. Voilà, en dernier recours. Et le juge des enfants, lui, va toujours évaluer la possibilité, pourquoi pas, de placer l'enfant soit chez l'autre parent, bon, à titre provisoire, hein, soit chez une personne de confiance. Et qui est le premier? Ça peut être le nouveau conjoint, ça peut être un oncle, une tante, mais les grands-parents font partie de ce cercle-là. Hein, voilà. Donc, c'est une possibilité.
Maître, de toute manière, dans ce que vous venez d'évoquer, dans tous les droits des grands-parents, en quelque sorte, ce qu'on comprend, c'est que toutes ces procédures qui peuvent être menées sont dans le cas ultime où les droits des grands-parents sont lésés. Donc ça veut dire que malgré tout, on a des droits.
Oui.
Voilà. Donc quand alors on posait la question, est-ce que vous avez des droits? Oui. Quand vos droits sont lésés, c'est-à-dire que vous n'avez plus de lien avec vos petits-enfants. Est-ce qu'il y a une fréquence qu'on peut dire, à quel moment on peut dire qu'on est lésé? Est-ce que parce qu'on les voit qu'une fois par mois, une fois par an, voyez? Est-ce qu'il y a une fréquence où on peut dire, là vous commencez à être lésé dans vos droits?
Alors, encore une fois, tout va dépendre de la situation et du rythme qu'avaient avant les grands-parents avec leurs enfants. C'est-à-dire que un grand-parent qui voit son enfant l'été exclusivement peut se sentir lésé si pendant 2 étés il ne le voit pas.
D'accord.
Bon. Déjà, un grand-parent qui voit son enfant quotidiennement, qui va le chercher à l'école, qui le garde jusqu'à ce que le parent rentre du travail,
qui participe à sa vie quotidienne.
Oui, oui. Lui peut se sentir lésé beaucoup plus rapidement partir du moment où pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on lui dit non, aujourd'hui, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Bon, après, il y a un contexte aussi, un contexte de rupture de communication avec le parent qui fait qu'on n'arrive pas à dialoguer, donc on se sent de suite lésé. C'est très personnel, hein, le fait de se sentir lésé. Donc une personne peut, à partir du moment où elle se sent en souffrance parce qu'elle est privée de ce lien que les grands-parents chérissent, hein, d'ordre général, et réciproquement, dès que la personne sent que la distance est installée et qu'elle perd le lien, eh bien, il faut qu'elle agisse. Alors justement, vous me permettez d'aborder cette notion-là, enfin, ce deuxième volet de mon intervention, à savoir comment on agit. Oui. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut réagir à partir du moment où on se sent lésé ? Alors, encore une fois, en matière familiale, et comme d'ailleurs dans toutes les matières, il vaut mieux passer par une phase amiable.
Bien sûr.
C'est-à-dire essayer de communiquer.
Et qui est sollicité alors, la maître ?
Alors, ça peut être un médiateur, ça peut être un avocat. D'ailleurs, l'avocat peut être médiateur, on l'avait évoqué dans une émission précédente.
Bien sûr.
Ça peut être une discussion classique aussi avec un tiers, hein, un membre de la famille. Il n'y a pas de protocole véritable.
Oui, à respecter. Voilà. D'accord.
Exactement. Le but, l'enjeu, c'est
d'arriver,
parler.
Voilà. Et d'arriver à une...
À trouver une solution. Voilà. Bon. Alors, soit ça s'arrête là et c'est parfait, soit il y a une difficulté, la médiation échoue ou la personne, on retrouve les sollicitations restent lettre morte. Alors dans ce cas-là, il faut saisir le tribunal, comme toujours. Alors là, il faut savoir que pour les personnes qui sont habituées à l'encadrement des procédures juge aux affaires familiales, où on sait qu'on va devant le juge aux affaires familiales, et on connaît la pratique, il faut savoir qu'il y a une petite différence quand même pour les grands-parents. C'est vrai que ça semble un peu déconnecté du rythme de vie et de la croissance d'un enfant, mais la procédure est peut-être plus longue. Parce que on parle d'une assignation au fond. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais en gros, déjà, ça signifie que l'avocat est obligatoire. Ça signifie qu'on est sur une procédure écrite et rythmée par un calendrier de procédures. D'accord ? Où on va avoir une première audience pour vérifier que toutes les parties sont représentées. Puis après, il va y avoir un renvoi à quelques mois près. Enfin, ça dure un minimum un an. Une procédure classique JAF, ça peut durer aussi un an, mais on peut arriver à faire les choses en deux renvois. D'accord ? À partir du moment où on va sur ce type d'assignation, le grand-parent a fait assigner le parent, le juge requiert également l'avis du ministère public, d'accord, sur l'opportunité, effectivement, de consacrer les droits du grand-parent. Et très souvent, le juge peut auditionner l'enfant, bon, et ordonner aussi une enquête de personnalité, une enquête sociale.
D'accord.
Voilà, pour comprendre, parce qu'on peut arriver en disant « je suis grand-parent, j'adore mon enfant, je m'occupe de lui tous les jours », et en face, on a une personne qui va dire « non, le lien, il n'est pas tellement... »
C'est pas celui-ci.
Voilà, puis moi, mon fils, il veut pas le voir, de toute façon. Voilà. Donc, comment trancher ? Quand il n'y a pas d'éléments objectifs, on est sur de l'humain, du ressenti, du vécu, bon, du personnel. Et bien, dans ce cas-là, c'est bien de faire intervenir des tiers qui vont venir faire une petite audite de la relation familiale, qui vont entendre le petit et qui vont rendre un rapport sur la base duquel le juge pourra prendre sa décision. Et donc là, on rebascule sur les possibilités que le juge refuse. Et le juge peut refuser s'il estime que le grand-parent peut avoir une influence nocive sur l'enfant. Le juge peut, par exemple, un grand-parent qui a une vie dissolue, qui est lui-même alcoolique, qui fait la fête, je ne sais rien.
Oui, bon. Oui, et qui ne serait pas stable en tout cas et qui ne serait pas... positif pour la vie de l'enfant. Quoi.
Voilà, exactement, qui lui permettrait pas de rester en sécurité chez lui. Tout un tas de possibilités. Le juge peut refuser si l'enfant refuse catégoriquement, et parce qu'on va pas le forcer. Alors encore une fois, c'est pas l'enfant qui décide. C'est tout un tas d'éléments au-delà de l'audition de l'enfant. Hein, mais c'est un élément qui bien sûr il prend en considération. Si un enfant refuse et qui dit moi mon grand-père il me tape. Il est méchant, bon, alors peut-être pas forcer la main de suite.
Ben non.
Voilà.
C'est complètement stupide, même, je trouve.
Voilà. Donc après, il ne faut pas quand même perdre de vue le fait que l'enfant peut être parfois manipulé par le parent et il peut se retrouver dans un conflit de loyauté. Donc c'est bon de l'entendre, de le faire participer, mais c'est toujours une parole à appréhender avec de prudence.
Oui, prudence. Hein, mais maître, admettons, vous prenez le cas où des grands-parents ne se sont jamais investis dans la vie de l'enfant. Parce que il y avait un conflit avec le beau-fils ou la belle-fille, voilà, ils se voyaient pas, donc forcément ils voyaient quasiment jamais les petits-enfants, voire pas, et bien ils se séparent Donc du coup, on va dire la liberté est un petit peu retrouvée pour chacun. Est-ce que dans ce cas-là, les grands-parents, même qu'ils n'ont jamais créé un lien avec ces petits-enfants, peuvent le réclamer, dire écoutez, voilà, maintenant nous voulons un droit. Est-ce qu'ils ont cette possibilité alors qu'ils n'ont jamais créé quoi que ce soit?
Alors, encore une fois, en matière familiale, toutes les situations sont possibles.
Cas, ouais.
Donc là, si on est en présence de grands-parents qui ont été privés du lien avec leurs petits-enfants malgré eux, et qui le sollicitent, c'est tout à fait envisageable. Et le juge peut même prononcer une décision qui sera progressive, à savoir, ben, voilà, les grands-parents passent une après-midi, une fois par mois avec l'enfant, et puis petit à petit, l'enfant pourra nouer des liens. Il peut y avoir, et puis à terme passer des week-ends, des vacances chez eux, donc créer un lien. On part du principe que si ce lien peut faire du bien à l'enfant, eh bien il est bon de le préserver.
D'accord.
Après, par contre, si on est en présence de grands-parents qui ont jamais voulu voir le petit parce que justement ils le rejetaient,
pour X raisons.
Alors pourquoi pas? Peut-être que on peut revenir à raison sur le long terme. Voilà, tout sera appréciable. Et encore une fois, là aussi, l'enquête sociale sera opportune.
Et oui,
comprendre la démarche.
Voilà. Bien
quelle
sûr.
Est la démarche? Est-ce que c'est
purement personnel?
Rattraper le temps perdu, parce
aussi.
Que parfois en vieillissant, eh bien, on devient plus sage et on pense à ce qu'on n'a pas pu, à ce dont on n'a pas pu
bien
profiter.
Sûr. Voilà. Bien sûr, non, ça paraît logique. Mmh. Alors, ce droit, donc, qui est réel, qu'on l'a bien compris, et est-ce que déjà, on voit aussi des situations qui évoluent, hein, le monde évolue et on évolue avec. Est-ce que, par exemple, je pars à l'étranger? Je vais chez nos amis voisins, les Italiens, vous qui connaissez bien le droit italien. Est-ce que, déjà, d'un pays à l'autre, les droits sont les mêmes? Est-ce que les grands-parents qui habitent en France peuvent faire valoir leurs droits si je réside en Italie? Et vice-versa. Est-ce que si des grands-parents italiens résident donc en Italie, peuvent faire valoir leurs droits en France?
Tout à fait. Alors, comme je l'évoquais plus en amont, ce qui prévaut en Italie, comme en France et dans de nombreux pays, puisque cette notion est consacrée par la Convention de New York, c'est l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, il est donc préservé et il préside les décisions qui sont rendues en matière familiale par les juges en France comme en Italie. Donc la distance ne fait pas du tout obstacle au fait que les droits d'un grand-parent français puissent être exercés en Italie. Au contraire, on part du principe que l'enfant a une double culture, donc une double richesse.
D'accord.
Connaître la langue du pays de son grand-père, ça n'est qu'un plus, la langue, la culture et sa propre histoire. Donc non, à partir du moment où le juge italien est saisi par un grand-parent français, qui est privé du lien, ce sera tout à fait envisageable selon les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vérifier si c'est de l'intérêt de l'enfant. Il y a la distance, donc c'est vrai qu'on va pas forcément
le même rythme.
Exactement, ce sera plutôt pendant les vacances.
Bien sûr. Faut être cohérent.
Exactement.
Quand même.
Donc ça, à ce niveau-là, il y a aucune difficulté. Les droits sont les mêmes dans les deux pays.
Il y a des pays où c'est différent quand même, maître, comme ça de tête ou.
Oui.
Pas spécialement, il doit y en avoir.
Oui, il y a toujours des pays où, effectivement...
En tout cas, pas les pays voisins.
Non. Bon. Voilà. En tout cas, je n'ai pas encore été confrontée à une situation de droit international privé où le grand-parent était privé de ses droits.
Bon. Écoutez, ça, du coup, parenthèse fermée. Après, alors, on a dit qu'on a des droits sur les droits de visite et tout, et j'ai envie de vous dire, vous parliez du quotidien tout à l'heure. Il est vrai, ce quotidien. On emmène les enfants à l'école, on va les chercher, on les ramène, on les garde parce qu'ils sont malades. Est-ce que le grand-parent peut aller dans ses décisions, le choix de l'éducation, sur des soins médicaux, des choses qui sont de ce genre.
Alors, si le grand-parent intervient en qualité de grand-parent classique, il participe effectivement à l'éducation de l'enfant de fait, mais par contre, il n'a pas vocation à décider, à faire de choix en termes de santé, d'éducation.
Parce qu'imaginez, admettons, moi je veux une éducation dans le privé, je veux qu'il fasse du droit, le parent il est du tout pas du tout dans ce concept-là, hein, mais il voudrait faire valoir ses droits. Là, non.
Non. Alors là, on tombe dans des discussions qui doivent intervenir dans de nombreux foyers où oui. on a parfois le choc des mais générations.
Mais vous nous surprenez, Matt. Vous nous dites que les grands-parents ont des droits légaux. Donc voilà, on se dit ça peut aller dans tout finalement.
Oui, mais non. Parce que effectivement, c'est les parents qui ont l'autorité parentale et qui prennent les décisions pour les enfants. Par contre, si on bascule dans la situation qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir que le grand-parent se voit confier la garde de l'enfant ou bénéficie d'une délégation d'autorité parentale sur décision judiciaire, dans ce cas-là, oui, c'est lui qui prend les décisions pour le petit, pour l'enfant, oui. puisque c'est lui
qui a la garde. Voilà, bien sûr. Exactement. Donc, oui, non, là, dans ce cas-là, oui, mais sinon, en dehors de ça, on ne va pas commencer à aller dans des conflits pour des choix.
Déjà qu'avec deux parents, c'est parfois compliqué de s'entendre sur les choix.
Eh ben, on en met deux de plus de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a, maître ? On va bien compliquer les choses.
Oh, ben, ça augmentera les discussions, les sujets.
Et votre travail.
Et mon travail, effectivement.
Non, on va essayer de rester simple. Après, pour terminer sur ce sujet, maître, c'est quelque chose que vous voyez assez couramment ?
Ça arrive, effectivement. C'est pas quelque chose d'inédit. Hein. Et d'ailleurs, vous me permettez de donner un petit conseil aux personnes qui peuvent être confrontées à cette situation.
On a beaucoup de grands-parents qui sont isolés quand même.
Il y a beaucoup de grands-parents isolés. Déjà, il faut connaître ses droits. Et à partir du moment où on les fait valoir, c'est-à-dire qu'on va devant le juge, il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, dans certaines situations que j'ai pu traiter, il se peut qu'en 1 an et demi, 2 ans, la relation s'améliore avec le parent. Et moi, ça m'est déjà arrivé où une personne que j'assistais, qui était la grand-mère, au bout d'un moment, ne me répondait plus trop. Je sentais que...
Vous étiez dans la procédure
de ce qu'on vous avait demandé. Effectivement, et qui s'était vue privée de ses droits et qui ne voyait plus sa petite fille. Bon, ok. La procédure est en cours et puis je n'ai plus trop de nouvelles. Voilà. Et puis j'apprends qu'ils se sont, en fait, que le parent s'était arrangé avec le grand-parent. Enfin, ils avaient fait la paix et donc la relation s'était améliorée. Et tant mieux. Et donc, de fait, le grand-parent qui n'a pas envie de rebraquer son enfant, d'accord, donc le parent, va vouloir se désister, va vouloir laisser tomber la procédure en cours. Eh bien ça n'est pas la bonne solution. Parce que si la relation a été rétablie en cours de procédure, c'est très certainement justement parce qu'il y a une procédure qui a été initiée et qu'on a été obligé à un moment de se parler.
Et on peut comprendre, maître, qu'on aurait envie d'arrêter parce qu'on se dit, bon, ça y est, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le fait de se revoir améliore les relations.
Oui, je l'entends. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, c'est comme en matière contractuelle, hein, il vaut mieux faire acter qu'on a trouvé un accord et faire acter cet accord. Pourquoi ? Parce que si ça recommence, eh bien, il faudra recommencer toute la procédure et donc repartir dans des délais qui seront longuissimes. Et c'est du temps perdu pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est le conseil que je pouvais donner aujourd'hui. Si j'avais un conseil à donner aux grands-parents, c'est celui-ci. Si vous commencez vos démarches, terminez-les.
Allez jusqu'au bout.
Voilà. Et encore une fois, aller en justice, ça ne veut pas dire faire couler le sang.
Je peux le comprendre. C'est vrai qu'on se dit ça. On se dit, malheureusement, on n'a pas envie d'aller toujours dans les choses des conflits, etc. même si c'est dans le but d'améliorer. Mmh. Et on voit que ça peut améliorer, puisque votre exemple a été un bon exemple, justement. Mais bon, donc, vous conseillez d'aller jusqu'au bout. Au moins, les choses sont actées. Et bien, si elles sont plus nécessaires, eh bien, tant mieux.
Oui, et bien, voilà. De toute façon, les décisions de justice ont vocation à s'appliquer à titre subsidiaire. Hein, si on arrive à s'entendre par ailleurs, tant mieux. Et si jamais il y a un nouveau conflit, eh bien, ce sera la décision qui sera appliquée.
Bon, maître, je crois qu'on a fait vraiment le tour. Vous m'avez vraiment aujourd'hui surpris avec ce thème encore une fois. C'est vrai, je ne pensais pas que, voilà, il y avait des droits comme ça sur les grands-parents. J'ai envie de vous dire tant mieux. C'est vrai que beaucoup de grands-parents sont isolés, ne voient plus leurs petits-enfants. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller dans toute cette procédure, de dire on va en justice. Ça fait du mal quand même. Vous savez tout ça, maître, on peut le comprendre.
Donc, je l'entends parfaitement.
Mais ça fait du mal aussi de ne pas voir ses petits-enfants. Et ça aussi, il faut le comprendre. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, sachez que nos avocats sont là pour vous et notamment celle qui est sur ce plateau, Maître Céline Lindo, qui aujourd'hui nous a proposé le droit des grands-parents. Et oui, vous avez des droits, vous avez bien pu entendre. Si vous voulez réécouter cette émission en podcast, vous pouvez le faire sur le site de la radio www.diva-fm.fr. Blabla, c'est fini. Oui, j'ai fait comme vous, maître.
Voilà.
Et si vous souhaitez être conseillé par notre avocate, eh bien, vous pouvez le faire. Elle vous donne tout de suite les informations.
Oui, je vais essayer d'être très, très précise. Alors, si vous avez besoin d'un conseil, d'une consultation ou d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter au téléphone 04 86 01 28 70 ou par le formulaire de contact du cabinet que vous trouverez sur notre site internet, attention, www.lindo-avocat.fr. C'est un sans faute.
Merci, bravo maître, vous avez fait mieux que moi aujourd'hui. C'est ici que s'achève cette émission De quel droit avec maître Céline Lindo. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour encore un nouveau sujet ensemble. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée, une très bonne écoute sur notre radio et à vendredi prochain, maître.
À vendredi prochain.